La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la conscience est-elle devenue une affaire de science ? Je voudrais commencer cette émission en rappelant une évidence déjà notée par Ludwig Wittgenstein, qui disait ceci : c'est un coup du sort étrange, tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Fin de citation. Ce constat peu contestable et peu contesté pose la question de savoir si l'on peut savoir quel rôle joue le cerveau dans notre rapport au monde et dans la fabrication de ce que nous appelons une conscience. Par quel mécanisme nous permet-il de percevoir ce que nous percevons ? Par quel stratagème certaines informations parviennent-elles à accéder à notre conscience, tandis que d'autres demeurent dans les limbes de notre attention ? Par quel processus nos connaissances sur le monde se construisent-elles ? L'objet que je veux connaître, ce n'est pas moi. Il semble être autonome par rapport au sujet que je suis. Il a sa réalité propre, ses propriétés, j'ai la mienne. Alors comment puis-je le connaître ? Pour la dire avec les mots de Hegel, la question est : comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi ? Telle est en somme la formulation philosophique du problème de la connaissance. Mais la science, ou plutôt les sciences, ont-elles des choses à nous dire sur ces sujets ? Les neurosciences et les sciences cognitives, par exemple, qui sont en pleine expansion, en pleine ébullition même, peuvent-elles apporter des éléments de réponse aux questions que je viens de poser ? Peuvent-elles même les trancher d'une manière qui soit plus juste que les hypothèses des philosophes ? Un jour, quelqu'un a dit « L'humanité est parvenue à identifier des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici, à étudier des particules bien plus petites qu'un atome, mais elle n'a toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière » qui se trouve entre nos deux oreilles. » Fin de citation. Ce quelqu'un, c'était Barack Obama, et il a dit cette phrase le 2 avril 2013, le jour où il lança le projet BRAIN. Un projet portant ce nom, BRAIN, a-t-il un sens ? Notre cerveau serait-il capable de se comprendre lui-même ? Pourrait-il être plus intelligent qu'il n'est complexe ? Je veux dire, l'intelligence qu'engendre sa complexité peut-elle être assez puissante pour cerner la complexité dont elle provient ? N'y aurait-il pas là comme les germes d'une autoréférence problématique ? Ou bien une affaire de queue de poisson qui serait mordue par le poisson dont elle serait la queue ? À moins que ce ne soit un nouvel avatar de l'histoire de la poule et de l'œuf, qu'il faudrait résoudre sans faire allusion au moindre coq. Cela fait beaucoup de questions, des questions compliquées, alors pour les aborder, j'ai invité un cerveau humain, donc banal en un sens, mais néanmoins très particulier, puisque ce cerveau n'est autre que celui de Stanislas Dehaene. Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir. Je ne mens pas en disant que vous êtes un cerveau, il n'y a qu'à voir. Hein. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale et membre de l'Académie des sciences. Et vous venez de publier un livre passionnant. Un livre qui prend la tête au sens propre, puisque son sujet, c'est ce qui se passe dans notre tête. Et ce livre s'intitule « Le code de la conscience ». Alors j'ai une première question à vous poser, Stanislas Dehaene. J'ai été intrigué par deux citations que vous avez placées au tout début de votre livre. La première, on la doit à l'écrivain Vladimir Nabokov. Elle est celle-ci. « La conscience, dit-il, est la seule chose réelle au monde et de tous le plus grand mystère ». Fin de citation. La seconde citation est de la poétesse américaine Emily Dickinson, qui a vécu au XIXe siècle et qui disait ceci : le cerveau est plus spacieux que le ciel, car mettez-les côte à côte, l'un sans peine contient l'autre, et vous de surcroît. Fin de citation. Alors j'imagine que vous n'avez pas choisi ces deux citations au hasard, qu'elles doivent correspondre à ce que vous pensez, peu ou prou. Alors est-ce que je les comprends bien si je dis que ce qu'elles affirment, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un en dehors de l'esprit.
C'est-à-dire que toutes nos représentations du monde extérieur, nous les construisons avec notre cerveau. Et même lorsque nous percevons ce que nous prenons pour une propriété objective du monde extérieur, comme, je ne sais pas, la couleur bleue du ciel aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est une construction de notre cerveau. Et l'objectif de la science de la conscience, c'est de comprendre comment ces représentations se construisent et comment à un certain niveau, certaines d'entre elles, mais on verra, c'est un tout petit nombre d'entre elles, accèdent à cette propriété particulière qu'on appelle la conscience. Alors, la citation de Nabokov, évidemment, nous rappelle que c'est une question qui est considérée comme un des mystères fondamentaux de la psychologie et maintenant des neurosciences. En tout cas, c'était considéré comme tel, c'est-à-dire que beaucoup de scientifiques considéraient que la question de la conscience était une question qu'il ne fallait surtout pas aborder pendant sa carrière parce qu'elle était mal posée, glissante, et qu'il fallait la réserver à la retraite.
C'est comme l'univers pour les physiciens. On a longtemps reproché au concept d'univers d'être un objet qu'on ne pouvait pas saisir, puisque pour le saisir, il faut être extérieur à l'univers. Ce qui est impossible par définition.
Et c'est intéressant d'ailleurs parce que dans les deux cas, c'est précisément parce qu'on se construit des représentations mentales qu'on peut se projeter en quelque sorte à l'extérieur du système, tout en faisant partie, mais on construit des représentations qui tentent d'objectiver le monde extérieur.
Mais dire que le cerveau fabrique toutes nos représentations suppose quand même qu'il existe un monde extérieur dont nous faisons la représentation.
Oui, alors, comme je ne suis pas philosophe, j'accepte cette distinction fondamentale. Je crois que c'est un fait
de la nature. Il y a quelque chose dans le réel qui nous dit non, parfois.
Exactement, il y a une résistance du réel. Il y a quelque chose en dehors de nous qui a des régularités, et notre cerveau les décrit. Notre cerveau, d'ailleurs, a évolué. Notre organisme tout entier a évolué dans un monde qui est contraint, et notre cerveau a internalisé un certain nombre de ces contraintes au fil de son évolution. Mais ce qui est nouveau, c'est le cerveau du scientifique qui essaie de se comprendre lui-même, ce que vous disiez très bien dans votre introduction. Est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce que l'objet conscience est un objet trop élevé et quelque part trop récursif, tourné vers lui-même, pour que cette science de la conscience soit possible ? Alors, dans le livre, j'essaie d'expliquer que nous avons fait d'énormes progrès sur ces questions. Bien entendu, il reste encore une voie importante devant nous, mais disons que nous savons comment amener en laboratoire cette question de la conscience et nous disposons d'outils pour l'attaquer.
Boom, 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 boing. You stupid kite, come down out of that tree. Kite, kite, kite. Chomp, chomp, chomp. Clam, clam, clack, 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 clack. Chomp, chomp. Crunch, crunk, crack, crackle. Up, barf. Gosh.
Alors justement, on va en parler, c'est un livre extrêmement riche, je l'ai dit, mais avant je voudrais insister un peu sur ces problèmes philosophiques qui ont tourmenté certains penseurs, notamment du XIXe siècle, je pense à Auguste Comte, qui disait ceci, « L'individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l'un raisonnerait tandis que l'autre regarderait raisonner. L'organe observé et l'organe observateur étant dans ce cas identiques, comment l'observation pourrait-elle avoir lieu ?» C'est comme si pour se penser soi-même, il fallait d'abord se dédoubler.
Mais évidemment, il se trompe complètement.
Ce que vous dites dans le livre, la citation, je l'ai reprise dans votre livre.
D'abord, nous pouvons observer les autres, et c'est ce que nous faisons en tant que scientifiques. Nous observons des populations de cerveaux qui viennent se prêter à nos expériences. Et d'autre part, on peut s'observer soi-même avec un délai. On peut se pencher sur ce que nous étions dans les secondes passées. Et puis enfin, il est tout à fait possible que le cerveau soit composé de plusieurs organes, des organes dans l'organe, et qu'une fraction de ce système cerveau soit consacrée à s'observer soi-même, à observer en quelque sorte les autres régions du cerveau. Et de plus en plus, nous croyons que c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'espace neuronal à l'intérieur du cerveau, un sous-ensemble de régions du cerveau qui observe les autres et qui en tire les conclusions, qui est en quelque sorte un centre de décision, une sorte d'organe de décision au sommet de la pyramide du cerveau.
Ça veut dire que c'est ça que vous appelez la métacognition ?
Oui, la métacognition, c'est l'ensemble des opérations cognitives qui portent sur d'autres observations cognitives. Si je sais, par exemple, que j'ai fait une erreur, si je prends conscience que j'ai fait une erreur, je réalise une opération métacognitive, parce que je constate qu'au niveau 1, j'ai fait une erreur, j'en prends conscience au niveau 2. Alors évidemment, ce n'est pas une pyramide infinie à l'intérieur de nous-mêmes, mais il faut considérer qu'il y a effectivement certains systèmes cérébraux dont l'objectif est de faire une sorte de monitoring permanent, une surveillance des opérations qui se produisent partout dans le cerveau.
C'est-à-dire que notre cerveau serait capable d'observer nos états mentaux ?
Oui, il n'y a aucune contradiction particulière à celle-là. D'ailleurs, je pense que l'ensemble de ce programme de recherche sur la conscience appelle à un certain retour à l'introspection. C'est-à-dire que c'est l'introspection qui définit le phénomène même que l'on cherche à étudier. Comment est-ce que je peux savoir de quoi vous êtes conscient? Je suis obligé de vous le demander, parce que c'est un phénomène subjectif, la conscience. Alors pendant très longtemps, on a pensé que parce que c'était un phénomène subjectif, personnel, à la première personne, il n'y aurait pas de science de la conscience. Ça a échappé en quelque sorte à l'approche objective du scientifique. Je pense que ce n'est absolument pas le cas, et dans ce sens, je suis d'autres philosophes, comme Daniel Dennett, par exemple, aux États-Unis, qui a vraiment insisté sur ce point. Je peux recueillir l'introspection d'une personne et non pas la prendre pour argent comptant, mais l'introduire dans une théorie, comme une observation fondamentale, au même titre que l'état d'activité de son cerveau. Donc si une personne me dit, par exemple, comme ça arrive, j'ai des hallucinations, parfois j'ai l'impression de quitter mon corps et de voir mon corps à partir du plafond.
Après une anesthésie, par exemple.
Une sortie du corps, oui, ou pendant une anesthésie, ou parfois chez certaines personnes de façon récurrente, le matin, par exemple. Eh bien, la bonne attitude, ça n'est pas de prendre ça au sérieux, et comme je l'ai vu malheureusement dans un colloque sur la parapsychologie, un peu triste, cacher des mots au sommet des armoires pour savoir si les gens arrivent à les voir quand ils décollent au plafond, hein, c'est ridicule. La bonne attitude, ça consiste à prendre au sérieux ce que ces gens disent dans la mesure où ils le ressentent comme tel, et il faut expliquer leur ressenti. Et on aura une science complète de la conscience, si c'est possible, quand on parviendra à expliquer le ressenti subjectif et le rapport verbal des personnes sur la base de l'activité de leur cerveau.
Donc est-ce que vous seriez d'accord pour dire, Stanislas Dehaene, que votre science est celle de la subjectivité, le mot subjectivité étant pris au sens large, celle du sujet et de tout ce qu'il peut ressentir?
Oui, c'est la moitié de cette science de la conscience. C'est la science de la subjectivité, mais c'est aussi la science des opérations non conscientes. Il s'agit de faire la part des choses et de déterminer quelle est la part de l'activité cérébrale qui relève du non conscient et quelle est la part qui, effectivement, qui est une petite part, qui induit un sentiment subjectif.
Alors avant d'aller un peu plus en détail dans vos travaux, dans les résultats de vos recherches, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre science permet de faire des sortes de découvertes philosophiques négatives, comme je le dis souvent à ce micro à propos de la physique, c'est-à-dire que des résultats de physique peuvent modifier la façon dont nous posons la question du temps, par exemple. La relativité d'Einstein, l'antimatière sont des événements théoriques qui ont modifié la façon de poser certaines questions philosophiques. Est-ce que vous-même produisez des résultats qui obligent à reprendre certaines questions philosophiques?
Je crois que ça va peut-être même au-delà de ça. C'est-à-dire, je considère les philosophes comme les pionniers, les premiers à oser poser des questions extrêmement difficiles sur des grands domaines, comme effectivement celui du temps, de la conscience, de la nature de l'espace, etc. Et puis, vient un moment où ces questions commencent à être bien posées, le vocabulaire commence à être en place, les premières balises sont en place, et le scientifique peut créer des protocoles expérimentaux plus rigoureux. Et à ce moment-là, je crains que la place de la philosophie diminue. Je crois que c'est le cas actuellement dans le domaine de la conscience. Pour être philosophe de la conscience aujourd'hui, il faut absolument maîtriser la littérature expérimentale sur le sujet. Ça n'est plus seulement une question de réflexion dans l'intimité de son bureau ou de commentaires de textes existants. C'est une activité extraordinairement en prise avec l'expérience.
Dans votre livre, dès le début, vous réhabilitez Descartes, qui est pourtant très souvent critiqué pour la naïveté de son dualisme.
Oui, mais Descartes écrit aussi « Nous sommes une chose qui pense ». Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus matérialiste que ça? Moi, je pense que Descartes a oscillé entre plusieurs attitudes. Il aurait bien aimé avoir une explication mécaniste de la pensée. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Et dans une très large mesure, on peut lire ses écrits, le traité sur l'homme, comme une tentative de mécanicisation, une sorte de modèle, avec énormément d'a priori et d'invention, hein, d'inventivité. Mais essayer de voir comment une machine pourrait se comporter comme un corps.
Donc une machine qui pense, c'est-à-dire que l'homme, sa thèse n'est pas complètement dualiste.
Exactement.
Elle est même le contraire.
Et c'est même le contraire. Et quand vous lisez Descartes, c'est stupéfiant de voir à quel point, par exemple, il énonce tout à fait clairement que la mémoire est le résultat de modifications des connexions à l'intérieur de notre corps, de ce système pneumatique, puisqu'à l'époque il envisage une machine pneumatique. Et c'est une explication strictement matérialiste. De la même manière, il a vu l'existence des réflexes. Il a son fameux diagramme où l'on voit circuler ce qui n'est pas l'influx nerveux, mais la pression des esprits animaux qui permet d'expliquer comment on passe de la vision d'un objet à une action appropriée à la position de cet objet. Donc il est matérialiste et s'il ne va pas jusqu'au bout de son idée, c'est parce qu'il bute sur une difficulté. J'ai l'impression en le lisant de quelqu'un de profondément honnête qui ne voit pas comment des opérations cognitives supérieures, comme celle du langage en particulier, pourraient s'expliquer comme le résultat d'une machine. De ce point de vue-là, il voit le cerveau humain comme très différent de celui des autres animaux. Il n'a aucune difficulté à dire les animaux sont des machines, on peut expliquer l'ensemble de leur comportement. Par contre, au niveau du cerveau humain, il ne voit pas comment une machine pourrait articuler des sons du langage et le faire d'une manière infiniment variée et appropriée aux stimulations qui l'entourent. Donc il peut très bien envisager une sorte d'automate qui dirait canard lorsqu'il est stimulé avec l'image d'un canard, mais il ne voit pas comment la composition des phrases avec toute cette flexibilité pourrait exister dans une machine.
Mais j'ai cru comprendre en vous lisant que vous ne le voyez pas non plus.
Moi je pense qu'on commence à le voir, mais ce n'est pas spécialement les sciences cognitives. En tout cas, il faut remonter à leur tout début, c'est-à-dire Turing, la machine de Turing, l'invention de l'ordinateur.
Je parle du langage. Comment est-ce que le cerveau fabrique le sens des mots?
On fait des progrès considérables sur le plan du langage. C'est l'objet de mon cours cette année au Collège de France. Les gens peuvent l'écouter sur le site du Collège de France d'ailleurs. Mais en réalité, avec, je dirais, l'ensemble de la linguistique du XXe siècle, depuis Saussure jusqu'à Chomsky et ses contemporains du mouvement qu'on appelle aujourd'hui de linguistique minimaliste, nous commençons à avoir un excellent modèle des opérations qui se passent pour produire ou pour comprendre la parole. Ce que nous ne comprenons pas encore très bien, c'est comment c'est implémenté dans le cerveau. Mais à ce niveau-là, d'ailleurs, nous connaissons à peu près les grandes régions qui sont impliquées et il reste une question assez difficile de code neural, probablement propre au cerveau humain, qui permet de réaliser l'opération linguistique.
Alors, imaginons une expérience de pensée, en fait, tout à fait facile à faire. Je pose sur la table un cerveau humain, et à côté, je pose le cerveau d'un chimpanzé, par exemple. Ils n'ont pas le même volume. Et est-ce que par l'examen de leur structure, la comparaison de leur forme, par exemple, vous êtes capable de dire d'où vient que l'homme peut faire des choses que le singe ne peut pas faire?
Ça, c'est la question vraiment passionnante je dirais, 5 ou 10 ou 15 prochaines années. On commence déjà à avoir des indices très précieux. Par exemple, si vous regardez la région de Broca, donc cette région frontale inférieure gauche qui joue un rôle important dans le langage, pas seulement dans la production d'ailleurs, mais aussi dans la compréhension du langage, eh bien, elle est infiniment plus grande dans le cerveau humain que même dans le cerveau du chimpanzé. Au laboratoire, une équipe, celle de mon épouse, Ghislaine de Anne Lambert, avec François Leroy, a identifié une différence de profondeur dans une autre région dans le cortex temporal qui est strictement unique à l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'elle existe chez tous les êtres humains, elle existe même chez l'enfant, elle existe chez le bébé, chez le fœtus. C'est vraiment une propriété fondamentale du cerveau humain, qui sont droitiers, gauchers, mais elle n'existe absolument pas chez les chimpanzés. Il y a une forme de discontinuité, ça n'est pas seulement la taille du cerveau, c'est certainement la structure au niveau probablement aussi de la micro-circuiterie du cerveau qui fait que nous pouvons penser des choses nouvelles. Et une idée simple, c'est que nous pouvons penser des pensées arborescentes, nous pouvons penser des pensées combinatoires. C'est ça qui permet de créer les combinaisons du langage et peut-être aussi les combinaisons des mathématiques qui nous permettent de comprendre le monde.
Alors d'où vient qu'un éléphant, qui a un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ne pense pas mieux que nous?
Justement, la taille ne fait pas grand-chose à l'affaire.
Le rapport entre la taille du cerveau et la taille de l'individu?
Non, c'est une question d'architecture. C'est avant tout une question d'architecture.
Et est-ce qu'elle se voit physiquement, l'architecture, je veux dire, par l'examen des formes et des structures apparentes?
Dans le principe, oui. C'est-à-dire que dans le cerveau, il y a un nombre limité de connexions. Et si on connaissait la totalité du connectome et des types de neurones qui sont interconnectés, nous pourrions aller très loin dans cette compréhension. Maintenant, en pratique, les moyens d'investigation sont encore assez limités. Vous savez que l'imagerie cérébrale chez l'homme, en particulier in vivo, est quand même limitée à une échelle, disons, de quelques centaines de microns. C'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant pour
Qu'est-ce
avoir
qu'on
des
voit
neurones
à cette échelle,
individuels.
On voit pas de neurones individuels.
On voit des ensembles de neurones, et vous savez que c'est pire que ça, puisque dans l'IRM fonctionnel, qui est la méthode principale que nous utilisons, on ne voit pas directement l'activité des neurones. On voit le débit sanguin, qui est une conséquence de l'activité neuronale. Donc on voit l'ensemble de l'activité avec un délai considérable et un flou considérable lié à l'activité sanguine.
Et est-ce que vous avez établi une corrélation entre le débit sanguin que vous observez et l'activité neuronale?
Oui, la corrélation est bonne.
Et comment est-ce que vous la définissez, l'activité neuronale?
À chaque fois qu'un petit réseau de neurones entre en activité, vous voyez donc des décharges qu'on appelle les potentiels d'action. Ces potentiels d'action vont se transmettre le long de l'axone, ils vont franchir des synapses qui sont les points de passage au neurone suivant, et ils vont créer des petits courants électriques dans le neurone suivant. Et ces courants électriques à l'intérieur du cerveau vont être détectables de l'extérieur avec l'EEG ou la magnétoencéphalographie.
L'EEG, c'est
l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie. Et puis, très vite, il y a un couplage qui se fait et le débit sanguin augmente dans cette région. Et ça, on peut le voir avec l'IRM ou avec la caméra à positron, comme on le faisait auparavant. Donc voilà, le couplage est très bien établi. Reste à l'utiliser pour comprendre le code neuronal, c'est-à-dire la manière dont le cerveau code les informations et les combine, est capable de les combiner.
Alors là, vous parlez de l'activité neuronale, celle que vous observez indirectement par le flux sanguin que vous venez d'évoquer. Et l'activité mentale, qui est causalement reliée à cette activité cérébrale, comment est-ce que vous la définiriez ? Qu'est-ce que c'est qu'une activité mentale ?
C'est une magnifique question. Hein, si on n'est pas dualiste, quelque part, ce sont deux faces de la même chose, le mental et le cérébral. Je dirais que nous avons beaucoup appris avec l'idée que le cerveau est un dispositif de traitement de l'information. Donc je pense qu'on peut, si l'on tient absolument à cette division qu'il faut à un moment dépasser, on peut dire que ce qui relève du mental, c'est ce qui relève du traitement de l'information, et les neurosciences cognitives ont pour but de comprendre l'implémentation de cette information, comment elle est physiquement inscrite dans le cerveau, sous forme de réseau.
Good grief! Pum! Pum! Pooporoo, pooporoo! Pum! Psh! Puff, puff, puff! Tick! Tock! Tick! Tock! Sigh! Dong!
Alors l'objet de votre livre, Le Code de la Conscience, explique comment, enfin, entre autres choses, comment parmi toutes les perceptions, parmi toutes les informations que notre cerveau traite en permanence, il n'y en a que quelques-unes qui deviennent conscientes, c'est-à-dire qui accèdent à la conscience.
Ça, c'est le point de départ de la science de la conscience, je dirais. C'est le fait de se rendre compte qu'une part tout à fait minuscule du traitement de l'information dans notre cerveau est conscient. Et on le voit de mille manières. Je crois que beaucoup de gens maintenant connaissent l'expérience dite du gorille, qui simplement reflète le pouvoir de l'attention sur la prise de conscience. Si on est distrait par une première tâche, si on se concentre par exemple sur un message à la radio, on peut très bien être complètement aveugle à d'autres informations. Dans l'expérience du gorille, c'est une personne qui est déguisée en gorille, qui vient se frapper la poitrine en plein milieu d'un match de basket, et parce qu'on est en train de compter les passes de basket, on ne voit pas le gorille, et c'est hallucinant. Et il y a une double illusion dans ce domaine. La première illusion, c'est qu'on ne voit pas le gorille. La deuxième illusion, c'est que tout le monde pense que s'il y avait eu un gorille dans le film, je l'aurais vu. Voilà. Donc, je ne suis pas conscient de l'étendue de mes opérations non conscientes. Je n'ai pas conscience des limitations de ma conscience. Ça, c'est assez profond. C'est pour cela que, pendant des siècles, la psychologie s'est concentrée sur les opérations conscientes. Et aujourd'hui, c'est uniquement, justement, parce que grâce à la métaphore de l'informatique, Turing, traitement de l'information, que nous nous rendons compte que, non, c'est le traitement non conscient de l'information ne pose aucun problème, c'est ce que font toutes nos machines, c'est le traitement conscient qui est difficile à expliquer, et c'est une toute petite frange de notre activité cérébrale.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire devenir conscient de ? Quand on est conscient de quelque chose, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale ?
Alors, on a fait beaucoup d'expériences là-dessus.
Oui, votre livre en montre beaucoup.
J'essaye de les raconter dans le livre, et c'est pas forcément des expériences très compliquées. Nous avons une technique que nous aimons beaucoup au laboratoire, qu'on appelle le masquage, et qui permet de créer ce qu'on appelle communément des images subliminales. On va flasher un mot sur un écran d'ordinateur, et si on le fait suivre par un deuxième mot, ou même une chaîne de caractères sans signification, ça peut totalement effacer la conscience du premier mot. Et tout le monde s'accorde à dire « je ne vois rien, il n'y avait pas de mot ». Voilà. Alors, on peut changer un tout petit peu l'écart entre les deux, l'écart temporel, et si on augmente un petit peu ce délai, eh bien, d'un seul coup, tout le monde dit non, c'est très simple, il y a un mot, là, je le vois. Voilà. Donc, on joue avec la subjectivité et le traitement non conscient et conscient. Et ce qu'on a vu dans le cerveau, c'est que cette différence minimale, qu'on peut rendre aussi petite que nécessaire, hein, eh bien, elle se traduit par une amplification tardive de l'activité cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le mot arrive dans la rétine, au temps zéro. Pendant à peu près un cinquième de seconde, il va être traité sur un mode non conscient. Toutes ces étapes initiales qui consistent à extraire les formes, à extraire les lettres, à accéder à ce qu'on appelle le lexique mental, savoir de quel mot il s'agit, quel est son sens même. Toutes ces étapes-là vont se produire sans conscience. Et le mot masqué sera traité pratiquement de la même manière que le mot non masqué. Et c'est seulement au-delà de ces premières 200 millisecondes initiales, disons à peu près un cinquième, un tiers de seconde, qu'on va commencer à voir diverger les deux états et que c'est seulement le cerveau conscient qui développe un surcroît d'activité, une sorte de deuxième vague d'activité qui envahit le cortex préfrontal, c'est-à-dire ce qui se trouve derrière notre front.
Qui colonise en fait presque tout le cerveau.
Alors ça colonise à ce moment-là un très grand espace, peut-être pas tout le cerveau, mais l'information devient disponible à l'ensemble du cerveau si nécessaire.
Le cerveau s'allume.
Alors voilà, on le voit très concrètement avec nos méthodes d'imagerie cérébrale comme l'allumage d'un circuit supplémentaire et surtout un circuit dans lequel l'information va réverbérer. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'information accède à cet espace-là, elle ne devient plus dépendante du temps. Voyez, on peut avoir flashé le mot pendant un temps extrêmement court sur l'écran, mais dans votre conscience, il est stable, il est préservé. Et c'est ce qu'on appelle la transition vers la mémoire de travail. Je peux le maintenir en tête pour aussi longtemps que j'en ai besoin. C'est une propriété essentielle de la conscience. Alors seuls les objets conscients semblent accéder à ce système de représentation stable qu'on appelle l'espace de travail neuronal global.
Mais ça veut dire que la conscience est toujours en retard par rapport à ce qu'elle perçoit.
Exactement. Alors ça, c'est une propriété...
Comme on a son physique.
Dont nous n'avons pas conscience, mais bien sûr, ou comme simplement...
Nous, c'est la vitesse de la lumière. Vous, c'est des vitesses beaucoup plus lentes.
Voilà, c'est une vitesse extraordinairement lente dont nous avons parfaitement... nous pouvons en prendre conscience lorsque nous laissons tomber un objet, par exemple. Vous savez, vous avez le verre qui vous échappe.
Ça ne m'arrive jamais.
Et le fil se déroule au ralenti. On voit l'objet, on essaye de le rattraper, on se rend compte à quel point notre conscience est en retard. D'abord, notre main fait un geste que nous ne contrôlons pas. Qui va plus vite que notre conscience, puis notre conscience arrive trop tard juste pour constater les dégâts. Systématiquement, la conscience est en retard d'au moins 300 millisecondes, parfois plus, ça dépend un petit peu de la quantité d'évidence qui est disponible. Parfois, lorsque nous faisons deux choses en même temps, elle peut être très en retard. Le fait de prendre conscience d'une première chose empêche de prendre conscience d'une deuxième. C'est pour ça que, par exemple, que lorsque vous téléphonez au volant de votre voiture, ce qu'il ne faut pas faire, la prise de conscience d'éléments nouveaux du monde extérieur est très ralentie.
Est-ce que ça veut dire que notre conscience ne peut penser qu'une seule chose à la fois?
Pratiquement. C'est la conclusion que nous avons tirée. Il faudrait évidemment s'entendre sur ce que c'est qu'une chose à la fois. Une chose, un élément de pensée, un objet de pensée, ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Ça peut être le sens d'une phrase, par exemple. Je peux être en train de réfléchir à, je ne sais pas, l'équation de Schrödinger. C'est peut-être un objet de pensée pour le mathématicien. Voilà. Et il semble bien que dans l'espèce humaine, les objets de pensée soient plus complexes que dans les autres espèces. Mais une chose à la fois, effectivement, nous avons vu dans beaucoup d'expériences, jusqu'à très récemment, que lorsque cet espace de travail est envahi par une pensée, les autres sont repoussés à l'extérieur. Et nous devenons aveugles à ces autres éléments de pensée potentiels.
Est-ce que ça peut se travailler par une formation, par des entraînements?
C'est une propriété architecturale de notre cerveau.
Et donc quand on dit qu'une personne a des réflexes plus rapides qu'une autre?
Alors là, c'est différent.
C'est différent?
Non, parce que pendant que votre esprit est occupé à une pensée consciente, l'ensemble des traitements non conscients continuent d'opérer. Donc, si vous avez rendu, par exemple, la conduite automobile complètement automatique, eh bien, vous continuez à conduire votre voiture tout en écoutant la radio, par exemple, ou en bavardant avec votre voisine. C'est uniquement au niveau des représentations conscientes qu'il y a une limite. Au contraire, au niveau du traitement non conscient, il y a un parallélisme massif, c'est-à-dire que toutes les aires du cerveau travaillent en même temps. Mais cela, nous n'en avons pas conscience. Notre esprit conscient est extrêmement limité.
Mais ça a des conséquences presque éthiques considérables. Par exemple, à propos du libre arbitre. Comment est-ce qu'une décision se prend dans le cerveau? Vous écrivez quelque part, toute machine capable de pondérer les informations dispose d'une sorte de libre arbitre. Fin de citation. Alors, une sorte de, ça veut dire quoi?
Je crois que sur cette question du libre arbitre, il y a une confusion entre deux idées différentes. La première idée, c'est un système capable de prendre des décisions réfléchies. La deuxième idée, c'est un système qui a une liberté telle qu'elle ne dépend plus d'un déterminisme physique. Alors, la première idée est juste, la deuxième est fausse. Notre cerveau a un déterminisme physique. C'est la physique de notre cerveau, la chimie de notre cerveau qui détermine son contenu mental. Je crois que nous n'avons pas de doute là-dessus. Donc on n'échappe pas à une certaine forme de détermination par l'architecture même de l'objet cerveau. Mais par contre, lorsqu'on est un être humain, on a un espace de travail conscient qui nous permet de réfléchir. Et dans ce sens-là, le premier sens du libre-arbitre, nous avons un vrai libre-arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je dois prendre une décision difficile, grâce à cet espace de travail, je peux rassembler les éléments, je peux prendre tout le temps que je souhaite pour pondérer les options possibles et pour chacune de ces options examiner leurs conséquences, examiner avec l'aide de mes systèmes de valeurs si ces conséquences sont plutôt souhaitables ou pas, et finalement prendre ma décision. Et quand on dit que quelqu'un a pris une décision libre, réfléchie, c'est ça qu'on veut dire. Ça ne veut pas dire que la machine n'est pas déterministe en dessous. Bien sûr que la décision est déterminée par nos systèmes de valeurs. Si un de mes amis va voter, mais je peux la plupart du temps prédire qui va voter. Je connais son système de valeurs. Ça n'empêche qu'il dispose d'un libre arbitre.
Mais oui, c'est un argument régressif parce que vous êtes amené à vous interroger sur la question de savoir d'où vient le système de valeurs que vous évoquez. Est-ce qu'il s'installe dans le cerveau, par exemple ?
Bien sûr. Et nous sommes, de ce point de vue-là, à la fois le produit de nos gènes et surtout d'une grande quantité d'éducation en positif, en négatif, en creux, en bosse, qui module nos
paysages. Les valeurs sont essentiellement acquises ?
Oui, il y a beaucoup d'acquis dans ce domaine, je crois. Je crois beaucoup à l'éducation. On voit directement avec nos outils que l'éducation a un impact majeur sur le cerveau, hein, qu'il s'agit de la lecture, des mathématiques ou simplement des grandes options.
On y reviendra parce que vous avez écrit La pose des maths, votre ouvrage précédent.
J'ai beaucoup travaillé sur les mathématiques, mais peut-être la lecture est un exemple encore plus frappant dans lequel l'apprentissage améliore, augmente les possibilités de notre cerveau. Donc nous sommes le produit de tous ces apprentissages et ça n'empêche qu'à un certain niveau, nous pouvons décrire ce système comme disposant d'un libre-arbitre. Moi, je crois à la possibilité qu'un jour on dise une machine a un libre-arbitre. Si elle a la bonne architecture, si elle a la bonne capacité de réflexion, on dira, oui, cette machine a bien réfléchi.
Capacité de gestion des informations qui sont à disposition et qu'on peut pondérer.
Oui, et avec un but en tête et la notion de réfléchir jusqu'à ce que j'atteigne à ce but mental. Voilà. Pour moi, c'est cela, un système doté d'un libre arbitre. Alors, il faut oublier la deuxième partie qui est cette idée d'un non-déterminisme. Il y a des fluctuations dans le cerveau, bien sûr. C'est ça qui, subjectivement, nous donne l'impression que nos actions ne sont pas déterminées, voyez, parce qu'on n'est pas conscient de des minuscules opérations qui accumulent les données, qui sont en partie bruitées par les mouvements moléculaires, par les mouvements synaptiques, qui font que nous-mêmes, nous ne savons pas prédire quelles décisions nous allons prendre. Mais il n'empêche qu'il n'est pas du tout impossible que ces décisions soient en partie déterminées.
Sam. Knock, knock. Oh, Zmwak. Grunt, sniff, glab, zbroom, come, hiss.
Rumble.
Zbam, zbrank, shrank, at a shrap, slap, galop. Honk, honk, honk. Gawz. Slam, snap, smash, splat, snap,
snort,
splash, split, splat, sprung, stick.
Vous écoutez France Culture, Stomp. La conversation scientifique Stomp. Par Étienne Klein.
Thud, stomp, 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 stomp.
Alors j'ai une question, je ne sais pas si elle fait partie de votre champ, mais est-ce que vous faites une différence entre une pensée et une idée ? Qu'est-ce que c'est qu'une idée et à quoi est-ce qu'on pourrait reconnaître son apparition dans un cerveau ? Quand un mathématicien a une idée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une idée? Du point de vue de l'activité neuronale, du point de vue de l'activité mentale, d'où est-ce qu'elle vient?
C'est une question magnifique.
Il y a un mathématicien.
La genèse des idées, oui, Adamar.
Adamar avait fait une étude, mais aussi là-dessus. Gromov, le grand mathématicien qui a eu le prix Abel, disait que, en fait, les idées dans l'inconscient sont dans une sorte de régime chaotique. Et puis, de temps en temps, il y a une idée qui percole dans la conscience et son vocabulaire. Et le mathématicien est celui qui sait la saisir pour l'insérer dans une construction un peu plus large.
Oui, et je crois que ça ne concerne pas que le mathématicien. C'est-à-dire que notre pensée est un bouillonnement d'idées non conscientes, en germe, partiellement affinées, partiellement ajustées. Et puis, à un moment donné, l'une d'entre elles se cristallise et perce à la conscience. Si c'est une bonne idée, on va la garder. Si c'est une mauvaise idée, on va la rejeter.
Et est-ce que ça passe par le langage? Est-ce que les idées peuvent exister sans les mots, comme le disait Einstein?
Ça, c'est une autre question qui est, à mon avis, résolue maintenant par les scientifiques.
Parce que là, juste pour faire un peu d'histoire, Adamar a écrit ce livre en 1945 sur comment les idées viennent aux mathématiciens. Et avant de faire paraître ce livre, il a reçu une lettre d'Einstein qui expliquait que pour lui, les mots n'arrivaient qu'après les idées, que les idées arrivent en dehors du langage. Et que c'est tout un travail pour lui de les rabaisser au niveau du langage.
Oui, il disait que les mots et le langage ne servent aucun rôle, ne jouent aucun rôle dans mes processus de pensée. Ce sont des signes ou des images qui me servent à penser.
Est-ce qu'on peut le croire?
Alors on peut le croire, je crois. On sait maintenant qu'il y a une pensée sans langage, qui peut être très complexe. On le sait de plusieurs manières. Nous venons de faire une expérience récemment qui a consisté à scanner des grands mathématiciens en IRM.
Consentant.
Consentant, je l'espère.
Combien alors?
Une quinzaine de haut niveau, des professionnels des mathématiques. Et c'était exactement pour résoudre cette question. On voulait savoir quelles aires cérébrales s'activent lorsqu'ils réfléchissent à un objet mathématique de très haut niveau, pas pendant très longtemps, pendant 4 secondes.
Donc c'est vous qui leur demandez de réfléchir à un concept
On a eu d'ailleurs pas mal de difficultés avec Maria Malric et Mathésard sur ce sujet, à concevoir des stimuli qui sollicitent, avec un tout petit peu de difficulté, leur pensée mathématique. Mais pendant quelques secondes, on leur demandait de réfléchir et de porter un jugement. Est-ce que tel énoncé est vrai, faux ou tout simplement absurde? Et on a vu que lorsqu'ils faisaient cela avec des objets mathématiques, il y avait un réseau particulier du cerveau, un réseau dorsal, pariétal, frontal qui s'activait, qui n'avait aucun recouvrement avec les aires du langage. Et si on leur demandait par contre de réfléchir à un problème d'histoire ou de géographie qui ne faisait pas partie des mathématiques, c'était un réseau impliquant certaines des aires du langage qui étaient activées, complètement différent de celui des régions mathématiques. Donc il y a un réseau mathématique dans le cerveau qui n'est pas celui des aires du langage. Et ça
mais qui peut se développer si on fait des mathématiques ou bien qui existe préalablement à toute activité de ce genre?
Eh bien, il préexiste, mais il se développe. On connaissait ce réseau, en fait, et moi j'étais ravi de ce résultat, parce que ce réseau qu'on a vu chez les grands mathématiciens, c'est celui que j'avais vu auparavant dans le traitement des nombres, dans les calculs, l'arithmétique mentale. Donc ce réseau existe chez le jeune enfant lorsqu'il fait 2 plus 3. Et en fait, il est encore plus ancien dans l'évolution, puisque nous avions vu qu'il existe chez tous les singes, chez tous les primates, et qu'il est impliqué dans le sens du nombre. C'était l'objet de mon livre sur la bosse des maths. Lorsque nous voyons un ensemble d'objets, que nous reconnaissons leur nombre, il y a 3 objets, nous activons déjà ce circuit. Alors ce qu'on a vu, c'est que les mathématiciens ont amplifié cette région, et ça coïncide avec ce modèle que j'ai essayé de développer du recyclage neuronal. C'est-à-dire que des activités culturelles de haut niveau comme les mathématiques recyclent des fondations très anciennes à l'intérieur de notre cerveau, le sens du nombre, le sens de l'espace, le sens du temps, qui existent chez de très nombreuses espèces animales. Le fait que ces représentations existent chez l'animal montre bien qu'il peut y avoir une pensée sans langage. Chez l'homme, cette pensée avec ou sans langage, a pris un développement particulier avec la capacité de symbolisation, donc de manipulation beaucoup plus formelle de ces objets de pensée.
Mais est-ce que le cerveau peut penser le concept de nombre sans penser le concept de chose? Est-ce qu'il peut penser au chiffre 2, par exemple, sans immédiatement l'incarner en deux objets quelconques?
Nous savons qu'au moins une partie de ces représentations dans le cerveau sont abstraites. C'est-à-dire que ce n'est pas un code concret dans lequel il y aurait l'analogue à l'intérieur du cerveau de deux objets. C'est un code tout à fait abstrait, une sorte de vecteur d'activité neuronale qui est une sorte d'index pour le nombre 2. Il y en a un autre pour le nombre 3, il y en a un autre pour le nombre 4, mais il n'y a plus rien dans ce code qui évoque une image de deux objets ou de trois objets ou de quatre objets.
Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de gène du nombre ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de gène du nombre. Il y a un circuit qui existe chez tous les primates, qui doit se développer sur la base probablement de centaines ou de milliers de gènes qui contribuent à son développement. Alors nous ne comprenons pas encore très bien comment ça c'est possible, mais on sait que ce circuit existe pratiquement dès la naissance chez le jeune enfant. Donc il a une base génétique très forte. Mais ce n'est pas un gène.
Je vous pose la question parce que Nietzsche a écrit un petit texte qui s'appelle « L'avenir de la science » dans « Humain trop humain » dans lequel il dit « Voilà, la science apporte beaucoup plus de plaisir à ceux qui font de la recherche qu'à ceux qui apprennent les résultats de la science ». Il prenait l'exemple de la table d'addition qu'on apprend par cœur bêtement, alors que l'effort intellectuel qu'il a fallu produire pour passer de l'idée qu'on peut ajouter des choses à l'idée qu'on peut ajouter des nombres, donc abstraire l'idée de nombre de l'idée de choses, ça a été un effort extraordinaire qui n'a pas d'écho dans la façon d'apprendre la table d'addition.
C'est une pensée très intéressante. Moi, j'essaye dans mes livres d'expliquer comment on a découvert les choses et pas seulement les choses telles qu'elles sont. Je pense que pour bien comprendre la science, il faut en comprendre les limites, il faut comprendre comment tel scientifique à tel moment a eu l'idée. Hein. Et je proposerais volontiers d'étendre ce principe à l'éducation. Je crois qu'on peut se passionner pour les mathématiques quand on comprend, quand un enfant comprend pourquoi. On a besoin de tel objet mathématique. Pourquoi des mathématiciens, à un moment donné, l'ont créé ? Comment ils avaient besoin de mesurer leur champ, tout simplement, au départ ? Et pourquoi est-ce qu'on a créé la géométrie ? Parce que les crues du Nil bouleversaient les champs et demandaient qu'on restaure les surfaces.
Platon ne serait pas d'accord. Hein.
Alors moi, je suis pas du tout platoniste. Je crois que les mathématiques sont une construction de notre cerveau qui est confrontée au départ à des problèmes concrets, mais qui dispose d'une capacité d'abstraction très forte aussi dès le départ.
Donc vous seriez pour une réforme assez radicale de l'enseignement des mathématiques ?
En tout cas, je ne sais pas, j'aime l'idée, mais elle est souvent appliquée déjà dans les maternelles ou dans les petites classes, d'introduire les objets mathématiques sous une forme assez concrète. Ensuite, évidemment, il faut solliciter aussi le sens du mystère, le sens de l'abstraction chez les enfants.
Grothendieck expliquait ça, le grand mathématicien Grothendieck disait qu'il partait des choses telles qu'il les voyait, et puis il avait une puissance de les faire monter à un niveau abstrait qui était son génie, on pourrait dire.
Oui, mais je crois que tout cerveau humain a une petite fraction de ce génie. On n'est pas tous des Grothendieck, hein, mais nous avons en nous, parce que nous sommes humains, la capacité de créer des structures abstraites et combinatoires de ce type. Et honnêtement, quand vous regardez les classes préparatoires françaises, vous avez chaque année des dizaines de milliers d'enfants ou d'adolescents qui font dans leur cerveau ce que Newton seul, au départ, a été capable de faire, voyez, modéliser, théoriser la physique. Rien d'impossible. Je crois que, quelque part, nous avons tous le même cerveau.
Ils en savent beaucoup plus que Newton, mais ils n'ont pas son génie, peut-être.
Le génie, c'est d'arriver à concevoir le système pour la première fois. Mais tout cerveau est capable de se représenter des pensées de ce type.
Alors, à propos de génie, vous citez Darwin, quelque part, qui disait « Celui qui comprendra le babouin contribuera davantage à la métaphysique que John Locke. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Enfin, qu'est-ce qu'il voulait dire par là et pourquoi vous avez utilisé cette citation ?
Ça correspond à l'idée dont nous discutons depuis le départ, qu'à un moment, la compréhension de la pensée nécessite le développement d'une science expérimentale, une science de l'observation de ce qui se passe dans un cerveau donné et ce qui se passe dans le cerveau de l'homme et pas dans celui du babouin. Je crois que c'est là que se trouvent les réponses, plus que dans les réflexions des cabinets des philosophes.
Alors si on scannait le cerveau d'un babouin et qu'on comparait le résultat au cerveau d'un mathématicien, par exemple, quelle grosse différence verrait-on à part le petit détail que vous avez indiqué tout à l'heure ?
Écoutez, récemment, on a fait une expérience de ce type. On commence à faire des expériences de ce type avec l'IRM fonctionnel. On peut comparer les activations du cerveau de l'homme et du cerveau, pas du babouin, mais du singe macaque. Et nous avons vu une différence frappante. Dans les aires du langage, dans la région de Broca, il existe un analogue de la région de Broca chez le singe. Mais chez l'homme, nous avons vu une capacité d'intégration de deux paramètres qui n'existait pas chez le singe. On fait une expérience extraordinairement simple. On fait écouter des sons Et il y a trois sons identiques et un quatrième son différent. C'est bip, 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 bap. Okay. Vous entendez ça deux, trois fois chez l'homme et vous avez compris. C'est toujours trois sons identiques et un son différent. Mais ce que je viens de dire, c'est une sorte de formule qui résume, c'est presque comme une formule mathématique, c'est un condensé de ce que vous avez entendu. Eh bien, il semble que la région de Broca chez l'homme fasse ce genre de formulation, théorisation du monde extérieur de façon extrêmement automatique et rapide, en intégrant donc des informations sur l'identité des objets et des informations sur leur nombre. Eh bien, cette interaction, cette intégration des signaux n'a pas l'air de se produire dans le cerveau du singe macaque. Il est capable de penser « Ah, il y a eu trois ». Il est capable de penser « Ah, s'il y avait des sons aigus, il y avait des sons graves, le dernier était différent ». Mais il ne met pas tout ça ensemble, en tout cas c'est ce que nos résultats suggèrent, il n'intègre pas toutes ces informations sous forme d'une formule unique. Formule qui peut devenir ensuite un objet de pensée autonome et qui peut lui-même entrer dans des formules de complexité supérieure. Cette capacité d'assemblage et de récursion, de reprendre des objets, de les réintégrer dans des pensées d'ordre supérieur, a l'air d'être tout à fait particulière au cerveau humain.
Stanislas Dehaene, vous disiez à l'instant qu'il peut y avoir, vous l'avez démontré, une pensée sans langage. Est-ce qu'il peut y avoir une pensée sans image? Je sais que vous avez scanné le cerveau d'un mathématicien aveugle. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat par rapport au cerveau d'un mathématicien qui voit?
Oui, alors d'abord, j'étais moi-même surpris de savoir qu'il pouvait y avoir de très grands mathématiciens aveugles. Il en existe et qui ont démontré des résultats extrêmement nouveaux. Pourquoi ? En fait, on ne devrait pas être surpris. Ils ont dans leur cerveau, dès la naissance, toutes les structures abstraites nécessaires, qui sont capables de projeter en quelque sorte sur le monde extérieur. Et Cédric Villani me disait, tu sais, pour eux, c'est peut-être même plus facile, parce qu'ils ont plus de cortex à leur disposition, et puis parce qu'ils ont peut-être plus de temps devant eux aussi pour réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que les mathématiques sont un objet de pensée agréable pour les aveugles parce qu'on se promène dans un monde intérieur, on n'a pas le danger de se promener dans un monde réel dans lequel on ne voit pas.
On ne voit pas les équations.
On voit, dans, pas les figures, dans sa tête les objets mathématiques. Alors mais c'est vrai qu'il y a des difficultés pour eux, mais vous disiez qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé le même réseau des mathématiques chez les aveugles, chez les mathématiciens aveugles, plus chez les mathématiciens aveugles de naissance, en tout cas ce qui s'en approche le plus dans notre petit échantillon, hein, pour l'instant sont des recherches en cours, une activation du cortex occipital, c'est-à-dire du cortex visuel. Donc ce cortex visuel qui aurait dû être activé par la vision, qui n'était plus afférenté, qui ne recevait plus d'entrée visuelle, eh bien, c'était mis à faire des mathématiques.
Il est colonisé par un autre besoin.
Il est envahi.
Par une autre fonction.
Recyclé. Et probablement que ça n'est pas un handicap dans le domaine des mathématiques, c'est peut-être même un avantage de pouvoir dédier un peu de cortex supplémentaire.
Est-ce que c'est pas un argument pour Platon ? Vous disiez tout à l'heure, les mathématiciens sont des gens qui partent de l'observation, vous parliez des Égyptiens qui devaient mesurer la surface de leur champ, etc. Là, ça veut dire que le cerveau est capable de produire des idées sans avoir aucune impulsion empirique ?
Je crois que le cerveau projette des représentations sur le monde extérieur, mais ce sont des objets cérébraux, ce ne sont pas des objets platoniciens. Ce sont des structures de données à l'intérieur du cerveau, c'est probablement un peu comme des cristaux, c'est la métaphore qu'utilise Chomsky, ce sont comme des cristaux de neige qui préexistent dans notre cerveau et qu'on va appliquer au monde extérieur. Et les objets pour lesquels ça colle vont rester, ceux pour lesquels l'application ne colle pas vont être éliminés, c'est une sorte de darwinisme mental. Donc il n'y a rien de platonicien là-dedans. Toutes ces idées sont en fait des représentations approximatives issues de notre cerveau.
Alors, le physicien que je suis a envie de vous poser la question suivante. Si tout est affaire de représentation et on n'a pas accès à autre chose que notre cerveau, que ce que notre cerveau peut représenter, est-ce qu'on a le droit de parler de l'électron, par exemple, ou du proton, ou du neutrino, indépendamment des moyens que nous utilisons pour le décrire, l'observer, le détecter ? Est-ce que je peux parler d'une réalité en soi de l'électron ? Ou est-ce que je dois toujours le rapporter à mes modes de connaissance ?
Je voudrais aborder ce sujet avec beaucoup de modestie, parce que je pense que les constructions de la physique sont parmi les plus belles constructions, les plus complexes aussi, qu'ont produites la science, et je ne les connais ni ne les comprends très bien. Mais
je posais la question autrement alors. Est-ce que l'électron existait avant que quelqu'un dise l'électron existe ?
Je pense effectivement que les physiciens ont parfois tendance à confondre leur modèle avec la réalité. et appliquer le même terme sans plus faire de distinction. Ils peuvent le faire dans la mesure où le modèle est une tellement bonne représentation de la réalité. Mais si on fait attention au terme, il faut faire cette distinction. L'électron est une construction intellectuelle. Il y a évidemment un élément de réalité qui lui correspond dans le monde extérieur, il y a quelque chose qui résiste dans le monde extérieur. Mais ça n'est pas identique à l'électron tel qu'il existe dans une théorie physique. La théorie, c'est dans le cerveau du physicien. L'électron, dans le monde extérieur, c'est un objet qui est partiellement cerné par cette modélisation du cerveau. On sait très bien, d'ailleurs, que les théories physiques ne cessent d'évoluer, qu'elles se bouleversent les unes les autres, partiellement. Donc, il faut accepter que nos théories ne sont jamais parfaitement adéquates au monde extérieur.
On ne peut même pas dire qu'elles touchent le réel si les résultats qu'elles prédisent ou permettent de prédire rencontrent toujours l'adhésion de la mesure.
Je suis fasciné par le fait que la physique atteigne un tel niveau d'adéquation avec le réel. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais je crois qu'il faut considérer aussi que cette physique a subi une sorte de double évolution, 5000 ans au moins d'évolution culturelle dans l'espèce humaine et des millions d'années auparavant d'évolution de notre cerveau dans le même monde, dans le même environnement. Donc une sélection progressive d'objets de pensées dans le cerveau qui sont adéquats pour la modélisation du monde extérieur. Je crois que c'est pour ça que la physique a un tel succès. Mais c'est peut-être pour ça aussi que nous commençons à pouvoir faire de la psychologie, parce que c'est plus récent dans l'évolution, mais chez l'espèce humaine, chez les homos, eh bien, il y a eu évolution de circuits cérébraux qui nous permettent de penser les pensées des autres. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. De la même manière qu'il y a des théories physiques qui sont appuyées sur peut-être quelques dizaines de millions d'années d'évolution du concept d'espace, de nombre, etc. dans notre cerveau, eh bien, il y a maintenant un début de théorie des opérations mentales fondée en partie sur notre sens de l'esprit des autres.
Alors, en lisant votre livre, Stanislas Duen, on a l'impression que vous faites des découvertes à un rythme très rapide, à une cadence d'essuie-glace, on pourrait dire. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez dire que vous avez compris l'essentiel du fonctionnement du cerveau? Et si c'est le cas, est-ce que ça ne va pas déboucher sur des questions éthiques terribles, par exemple sur ce qu'on appelle la responsabilité? Vous avez parlé du libre arbitre tout à l'heure, il y a une grande détermination physique quand même, vous l'avez dit, dans le cerveau, et c'est ensuite l'esprit qui est capable de pondérer les informations et de prendre une décision, mais on a l'impression que tout de même, il y a des structures qui déterminent nos réactions, nos pensées, nos choix, et que du coup, la question de la responsabilité se pose sous un nouveau jour.
Bien sûr, je crois que c'est absolument le cas. D'ailleurs, mon maître à penser, Jean-Pierre Changeux, était un des piliers du comité d'éthique en France. On ne peut pas ne pas avoir cette réflexion lorsqu'on est confronté, par exemple, à des patients qui souffrent de schizophrénie, qui ont des idées étranges, qui les conduisent parfois à des actions, rarement, fort heureusement, mais agressives, ou bien lorsqu'on est confronté à la situation des drogues, qui bouleversent le fonctionnement du cerveau et qui, d'une certaine manière, empêchent la personne de développer son libre arbitre, parce que son comportement face à la drogue, en tout cas, est conditionné par ce qui n'est après tout que des objets moléculaires dans son cerveau. La question du libre-arbitre a des prolongements très importants dans la manière dont nous traitons nos congénères en société. Je crois qu'il faut y réfléchir. Je n'ai pas les réponses. Je me contente de constater que les réponses de nos sociétés sont extrêmement primitives. La prison, aujourd'hui, quelle relique du Moyen-Âge ou d'avant. C'est triste de voir que dans un monde aussi développé sur le plan des idées et de la science, nous ne sommes pas capables de trouver une réponse plus appropriée à ce qui sont très souvent des pathologies du cerveau.
Alors justement, à propos de pathologies, c'est une question que je voulais vous poser, que j'avais oubliée, mais vous l'amenez par cette question des maladies mentales. Qu'est-ce que vous apporte l'étude des pathologies du cerveau par rapport à ce que vous apporte l'étude des cerveaux, entre guillemets, normaux ?
D'abord, évidemment, il y a une question clinique. Souvent, c'est le champ d'application de ces recherches sur la conscience. Lorsque vous avez un patient qui est dans le coma, la question de savoir s'il y a une conscience résiduelle ou dans l'état végétatif, par exemple, est une question extrêmement importante pour notre société. Donc, un champ d'application. Est-ce qu'on peut aussi restaurer la conscience? Ensuite, bien sûr, les patients de ce type posent des questions aux scientifiques et des questions de causalité, en particulier avec l'imagerie cérébrale. Nous pouvons voir une corrélation entre activité cérébrale et conscience ou non d'un élément du monde extérieur. Avec les lésions cérébrales, nous entrons dans le domaine de la causalité. Est-ce que la lésion de tel ou tel circuit cause ou pas une perte de conscience? Qu'est-ce qui cause une perte de conscience? Voilà, alors on a fait énormément de progrès dans ce domaine et je suis heureux de dire que les mêmes signatures de la conscience, c'est-à-dire des traits dans l'activité cérébrale qui prédisent si une personne est consciente ou pas, les signatures de la conscience qu'on identifie chez le cerveau normal, dans le cerveau normal, fonctionne aussi dans une certaine mesure dans le cerveau pathologique. C'est-à-dire qu'on peut faire des mesures de l'activité d'un cerveau en état végétatif, par exemple, et arriver, dans une certaine mesure, à déterminer s'il y a encore une conscience ou pas, à un instant T.
Mais quand on dit qu'une personne est consciente, on ne dit pas la même chose que quand on dit d'une personne qu'elle a conscience de quelque chose.
C'est vrai, c'est une distinction très importante qu'il faut faire. Il y a l'état de conscience et puis il y a la conscience intentionnelle qui se réfère à un objet particulier, l'objet A plutôt que l'objet B. Néanmoins, quand on se réveille le matin, donc on récupère la possibilité même de la conscience. Et ensuite, à l'intérieur de cet état de conscience ou de vigilance, il va y avoir plusieurs objets de pensée qui vont pouvoir nous occuper les uns après les autres. Eh bien, les mêmes signatures s'appliquent. On peut voir, donc, quand le cerveau se réveille, un retour de cet espace conscient, un retour de ce dialogue interne entre régions cérébrales, cet échange d'informations à longue distance dans le cerveau, dans cet espace qui implique le cortex préfrontal. Et c'est un assez bon prédicteur de la récupération de la conscience chez les patients.
Et est-ce que ces distinctions permettent de mieux comprendre le sommeil? Est-ce que ce que vous comprenez permettrait, par exemple, à ceux qui ont des insomnies de mieux dormir par des actions délibérées sur l'activité mentale ou cérébrale?
Il commence à y avoir une science du sommeil qui est très avancée. Évidemment, le sommeil n'est pas forcément un état non conscient. On peut avoir conscience de ses pensées dans le rêve, par exemple. En tout cas, on a une certaine expérience d'un monde mental dans le rêve. On est conscient du rêve dans lequel on
est conscient qu'on rêve.
On n'est pas forcément conscient qu'on rêve, mais on est conscient du rêve, n'est-ce pas? On est dans le film et il y a quelque chose qui est conscient.
Une sorte de rêve lucide.
Ce sont deux choses différentes, je crois. Il y a le rêve dans lequel nous sommes conscients de vivre une aventure particulière, mais nous ne sommes pas forcément conscients d'être dans le rêve. C'est une sorte de niveau supplémentaire, métacognitif supplémentaire. Mais on sait que le cerveau produit des états d'activité très complexes au cours de ces périodes de rêve. Et il y a des décharges, c'est ce qu'on appelle le replay dans le cerveau. C'est-à-dire le cerveau rejoue des patrons d'activité qui sont survenus durant la veille, typiquement dans le jour précédent ou les jours qui précèdent. Et on sait chez l'animal que ça correspond à des états codants du monde extérieur. À tel point que lorsqu'on enregistre des neurones dans l'hippocampe d'un rat, par exemple, on peut dire où se trouve l'animal dans son rêve. C'est absolument extraordinaire. On arrive à dire si c'est tel neurone qui s'active, c'est qu'il se trouve dans tel coin du labyrinthe, parce qu'il y a une correspondance entre les neurones qu'on appelle des cellules de lieu et les endroits où l'animal navigue dans la réalité. Donc, on peut décoder la trajectoire de son rêve et s'apercevoir qu'il est en train de courir dans un segment particulier du labyrinthe.
C'est incroyable.
Alors, il y a toutes les raisons de penser que dans le cerveau humain, des phénomènes similaires se produisent, pas seulement pour le sens de l'espace, mais aussi pour l'ensemble des pensées qui peuvent nous habiter comme des
pensées. On peut avoir des idées dans le sommeil dont on se souvient au réveil?
Je crois que tous les scientifiques ont fait l'expérience de ça. Oui, c'est une banalité. Mais donc peut-être certaines de ces pensées sont conscientes. Est-ce qu'on peut les augmenter? Et idée très intéressante. Il y a maintenant des capacités d'augmenter les ondes lentes du sommeil, d'entraîner les ondes lentes du cerveau, d'augmenter la profondeur du sommeil. Et lorsque ces expériences ont été faites, on s'est aperçu que les bénéfices du sommeil, c'est-à-dire la découverte scientifique et la mémorisation de ce qui s'était passé dans les jours précédents, ont été augmentés. Donc oui, je crois que prochainement, cette science nous permettra d'augmenter la qualité de notre sommeil.
Stanislas Dohan, merci, c'est passionnant. Nous allons continuer tous les deux la conversation au café, mais c'est quand même le terme de cette émission. Nous sommes devenus, grâce à vous, un peu plus conscients de ce dont nous sommes conscients et un peu moins inconscients de notre inconscient. Merci à vous. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Jean-Richard Dufour et à réalisation François Connac.
En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas, mes grands-mères, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi, mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment mais s'endorment à la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Tout de suite, c'est-à-dire très exactement dans quelques instants, vous retrouvez Projection privée par Michel Simon.